Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Nous sommes vendredi, vous connaissez le principe du vendredi, c'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Et des sujets, ce n'est pas ce qui manque au standard. Certains nous interpellent sur la situation politique en Guinée, d'autres sur la libération de Maurice Kamto au Cameroun, sur l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie, sur le paludisme, sur le dialogue politique au Bénin. Les sujets ne manquent pas, continuez à nous appeler et on en parlera, on en débattra ensemble dans une trentaine de minutes, 33 9 693 693 70. Mais d'abord, votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI, Stéphanie Schuller. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Journaliste au service international de la Radio Mondiale. On vous a demandé de venir ce matin dans ce studio pour répondre à Reagan. Reagan nous appelle de Kinshasa. Il a des questions sur Donald Trump et l'affaire ukrainienne, cette fameuse conversation téléphonique entre le président américain et son homologue ukrainien, ce coup de fil qui est à l'origine de l'enquête en vue d'une procédure de destitution. Bonjour Reagan.
Ah, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Oui Juan, en vue de la destitution de Donald Trump, un deuxième lanceur d'alerte a fait des nouvelles révélations. Du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce que sont ces nouvelles révélations.
Alors Stéphanie, l'existence de ce deuxième lanceur d'alerte a été confirmée dimanche dernier.
Oui tout à fait, mais en fait à vrai dire, Reagan, on ne sait presque rien sur ce deuxième lanceur d'alerte. Son identité est tenue secrète, comme le veut la loi, qui protège les lanceurs d'alerte pour qu'ils ne subissent pas de représailles, donc c'est bien normal. On ne sait même pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. En revanche, nous avons appris qu'il s'agit encore une fois d'un agent des services de renseignement américains. Cette personne aurait des informations plus précises et surtout de première main concernant le fameux coup de fil entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'avocat de cet individu, il s'appelle Mark Zaid.
Alors Mark Zaid, c'est aussi l'avocat du premier lanceur d'alerte.
Tout à fait, ce premier lanceur d'alerte s'était alarmé de la conversation téléphonique entre les présidents américains et ukrainiens. Vous vous souvenez très certainement, Reagan, il avait estimé que Donald Trump avait sollicité l'ingérence de l'Ukraine dans la campagne pour sa réélection en 2020. En demandant justement à son homologue d'enquêter, de rassembler des informations compromettantes sur l'un de ses rivaux démocrates, Joe Biden. Sauf que le premier lanceur d'alerte avait admis qu'il n'était pas présent parmi les responsables qui avaient écouté l'appel, mais qu'il avait échangé avec plus d'une demi-douzaine d'entre eux, tous très troublés apparemment par l'échange entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Alors, les fuites dans la presse américaine suggèrent maintenant que le deuxième lanceur d'alerte a été entendu par l'inspecteur général des renseignements pour corroborer les propos du premier lanceur d'alerte. Et donc, on peut supposer, si vous voulez, sans pouvoir autant le confirmer pour l'instant, qu'il s'agit là d'une personne qui a écouté le fameux coup de fil ou qui a eu accès à d'autres informations de première main en lien avec cette affaire ukrainienne. Mais encore une fois, Reagan, on ne sait pas et on ne connaît pas la teneur de ces nouvelles révélations.
Et on ne connaît pas, évidemment, l'identité de ce deuxième lanceur d'alerte. Reagan, vous avez une autre question ?
Oui, mais Donald Trump pourrait demander l'aide de la Chine et de l'Australie pour les affaires de Joe Biden.
Que se passe-t-il ? Voilà, ce sont les aléas du direct et des télécommunications. Reagan a disparu dans l'espace, véritablement surprenant.
Mais nous, on est là.
Nous sommes là. Heureusement que, bon, Reagan, je sais quelle était sa question, Reagan nous disait que Trump avait aurait, puisqu'il faut utiliser le conditionnel, sollicité l'aide de la Chine, ainsi que de l'Australie dans les affaires de Joe Biden, et de l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016. Comment les républicains réagissent-ils aux déclarations de Donald Trump? Ce sont deux affaires complètement différentes. Bah,
c'est ça ce qu'il faut surtout souligner, Juan. Il y a vraiment deux affaires différentes. Il faut bien faire la différence. En fait, Donald Trump a sollicité l'aide de l'Australie, ça c'est clair, on le sait, mais aussi d'autres pays d'étrangers d'ailleurs, tels que l'Italie par exemple, parce que l'administration américaine est en train de mener une contre-enquête sur l'ingérence russe dans la campagne électorale de 2016. Si vous voulez, une contre-enquête concernant l'enquête Mueller, n'est-ce pas?
Oui.
Sur ce point, moment-là, les membres du Parti républicain ne se sont presque ou pas presque prononcés, puisque dans ce cadre-là précis, l'administration Trump a légalement le droit de solliciter l'aide de pays tiers, c'est-à-dire ils ont le droit de mener cette enquête et de solliciter l'aide des renseignements étrangers. Bon, ce n'est en revanche pas la même chose du tout pour ce qui est de l'affaire de Joe Biden. Le fait que Donald Trump sollicite l'aide de l'Ukraine d'abord pour compromettre son potentiel rival de 2020, puis qu'il appelle devant les caméras de télévision, hein, vous vous souvenez, la Chine a en faire autant, on est là dans un tout autre registre en fait.
Oui, j'ai retrouvé les propos précis du président Trump. La Chine devrait lancer une enquête sur les Biden parce que ce qui s'est passé en Chine est tout aussi grave que ce qui s'est passé en Ukraine. Comment les membres du Parti républicain réagissent à une telle déclaration du président?
Alors, c'était assez étonnant en fait. Le week-end dernier, c'était en fait plusieurs poids lourds du Parti conservateur ont tenté sur les plateaux de télévision de tourner en dérision la demande d'aide de Donald Trump à la Chine. Ces républicains expliquaient que le président avait lancé cet appel en blaguant, qu'il n'était pas vraiment sérieux. Alors, ils sont plutôt rares ceux qui osent faire bande à part au sein de cette famille républicaine. Le sénateur Mitt Romney, ex-candidat républicain à la présidentielle en 2012, n'est-ce pas, vous vous souvenez, Juan, a par exemple qualifié d'épouvantable le fait que Donald Trump ait appelé des puissances étrangères à enquêter sur Joe Biden, ce qui lui a valu tout de suite d'être traité par le président de connard arrogant sur Twitter. Je suis désolée pour ses propos,
mais
c'est pas les miens.
Mais ce sont les propos de
voilà.
Donald Trump.
Alors, c'est peut-être pour ne pas s'attirer justement les foudres du locataire de la Maison Blanche, mais surtout aussi parce que la base électorale de Donald Trump se tient toujours comme un seul homme derrière son champion que les élus républicains soutiennent pour l'instant le président.
Voilà. Ouais, on a retrouvé Reagan. Vous êtes avec nous, Reagan, hein?
Oui, Juan.
Vous avez pu entendre toutes les explications de Stéphanie Schuller.
Bien sûr, je suis satisfait.
Bonne journée à Kinshasa et merci Stéphanie.
Avec plaisir, comme vous voulez.
10h18 à Paris, 33 9 693 693 70. Tiens, restons dans la capitale congolaise puisque Tim nous appelle également de Kinshasa. Bonjour Tim.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Vous avez des questions sur l'offensive de la Turquie dans le nord-est de la Syrie.
Exactement.
On vous écoute.
Alors, pourquoi la Turquie a-t-elle lancé cette offensive contre les forces kurdes syriennes aujourd'hui? Pourquoi cette offensive inquiète tellement la communauté internationale?
Oui, c'est vrai que cette opération militaire de la Turquie contre les Kurdes suscite un tollé international, hein, du Congrès américain à l'Union européenne, en passant par la Russie, l'Iran, l'Arabie saoudite. Bonjour Thomas Piret.
Bonjour.
Spécialiste de la Syrie, chercheur au CNRS, depuis mercredi, Ankara intervient militairement de l'autre côté de sa frontière contre les Kurdes de Syrie. Pourquoi cette offensive et pourquoi maintenant?
Alors bon, cette offensive, elle est absolument pas une surprise puisque la Turquie a exprimé son intention d'intervenir militairement dans la région depuis presque un an, hein, depuis la fin de l'année 2018. Alors le pourquoi d'une manière générale, mais on sait que depuis surtout l'année 2015, hein, c'est-à-dire le moment où, avec l'appui des Américains, les milices kurdes des YPG ont commencé à établir ce qui ressemblait de plus en plus à une sorte de proto-État kurde, une administration autonome avec un territoire continu. La Turquie qu'il faut le rappeler que les groupes kurdes des YPG sont une émanation du PKK qui combat l'État kurde depuis les années 80 à l'intérieur du territoire turc. Oui. Donc pour la Turquie, c'est la création de cet État, hein, des YPG a été perçue comme une menace.
Vous l'avez pas dit explicitement, mais Ankara considère ces miliciens kurdes comme des terroristes.
Oui, puisqu'elle considère qu'il n'y a pas de différence entre les YPG et le PKK, qui est considéré comme un mouvement terroriste par la Turquie, et notamment par d'autres pays. Voilà, alors le timing de cette opération, il faut d'abord savoir que les Turcs ont presque cette coutume maintenant en Syrie d'annoncer leurs opérations très longtemps à l'avance. Il y a eu d'autres cas dans le passé où ils ont annoncé une intervention en 2015 et l'intervention n'a eu lieu qu'en 2016. Il fallait, je dirais, d'abord s'assurer avec les Russes, avec les Américains, que tout était réglé de ce point de vue-là, sur le plan diplomatique. Et puis alors, si la Turquie a augmenté la pression dernièrement, alors ça peut aussi renvoyer à des considérations de politique intérieure turque. Hein, notamment la défaite électorale du parti au pouvoir aux dernières élections municipales, donc qui signale une érosion de la base électorale de l'AKP. pour une, notamment en raison de la question des réfugiés. Et donc, il y avait cette, je dirais, cette pression sur le gouvernement turc, hein, qui est de mener une opération en affirmant qu'elle permettra d'alléger le fardeau des réfugiés qui pèsent sur la Turquie, donc en ramenant des réfugiés en Syrie.
3,5 millions de réfugiés, voilà, syriens vivent en Turquie. Et on le voit bien d'ailleurs quand vous parlez de peut-être motivation de politique intérieure. Cette opération menée depuis mercredi soir, elle est soutenue par une majorité de la population turque.
Bah alors, il y a deux aspects ici. Alors, il y a effectivement cette rhétorique, hein, qui est de dire nous menons cette opération et elle permettra de ramener des réfugiés en Syrie. Ça, évidemment, ça marche très bien en Syrie, je dirais, dans quasiment tous les camps politiques, hein, puisqu'il y a, un sentiment anti-réfugié qui est très répandu aujourd'hui en Turquie. Par ailleurs, il y a le fait que c'est une opération qui est menée contre un groupe qui est présenté comme une émanation du PKK, mmh, et que la quasi-totalité des forces politiques turques, à l'exception du HDP qui est un parti pro-kurde, mais toutes les autres forces politiques turques sont extrêmement hostiles au PKK et à tout ce qui peut y être affilié. Donc, ouais, elle s'exprime favorablement face à cette intervention.
L'objectif, en tout cas, du président Erdogan, c'est de créer une zone de sécurité le long de la frontière, hein, une zone tampon d'une trentaine de kilomètres de large et de 120 kilomètres de long pour protéger, justement, sa frontière. Tim nous demandait pourquoi cette offensive inquiète autant la communauté internationale.
Ben, pour plusieurs raisons. Alors, il y en a une qui est d'ordre humanitaire, hein, qui a trait au déplacement de population, c'est-à-dire que ben, c'est une intervention militaire dans une zone qui était stable depuis plusieurs années.
60 000 personnes déplacées depuis mercredi soir.
Mais voilà, donc c'est une opération militaire qui s'accompagne de bombardements aériens, d'artillerie, etc., et donc qui déplace des populations importantes. Donc ça, c'est un premier aspect, un aspect humanitaire. Mmh. Alors, bon, il y a une crainte aussi par rapport à la campagne contre l'État islamique, hein, avec l'inquiétude par rapport à la manière dont ça peut déstabiliser les efforts de lutte contre l'État islamique. Bon, alors, je pense que là, ça va vraiment dépendre de l'ampleur de cette offensive. S'il s'agit juste d'une bande frontalière et puis que les Américains, que Trump ont mis une limite à cette avance, on peut imaginer que ça ne va pas entraîner un effondrement de l'administration kurde et de l'effort militaire contre l'État islamique qui se poursuit plus au sud.
Et puis il y a un autre problème de ça, excusez-moi Thomas Pierret, parce qu'on est un peu pris par le temps, mais c'est passionnant, ce sont les djihadistes détenus par les Kurdes. Et personne ne veut les voir évidemment dans la nature, ces djihadistes.
Oui, et alors encore une fois, ça dépend. Il n'est pas dit que nécessairement cette offensive va amener au démantèlement des forces kurdes et que les djihadistes vont être libérés et vont se disparaître dans la nature. Alors c'est un argument qui est un peu un épouvantail qui est mis en avant par les Kurdes des YPG pour appeler les Occidentaux à les soutenir et à mettre un terme à cette opération turque. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'ampleur des opérations et c'est assez difficile à prédire pour l'instant.
Ouais. Alors, Tim, vous avez une dernière question rapidement, s'il vous plaît, Tim.
De la communauté internationale pour faire cesser cette offensive.
Quelle est la marge de manœuvre de la communauté internationale? Il y a eu hier soir, Thomas Pierret, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. On a bien vu que ça n'a rien donné et que le Conseil de sécurité de l'ONU est apparu divisé.
Effectivement, la marge de manœuvre de la communauté internationale est très faible parce que tant les États-Unis que la Russie se refusent à s'exprimer fortement contre ou en tout cas à sanctionner à l'ONU l'opération turque. Les États-Unis, c'est évident puisque cette opération turque a eu lieu suite à un accord avec Donald Trump, ça c'est une évidence, puisqu'il a retiré ses troupes avant le début de l'offensive. La Russie, par ailleurs, a des négociations avec la Turquie pour une toute autre raison. Ça porte sur la mise en place d'un comité de réforme constitutionnelle en Syrie, qui est une manœuvre diplomatique, qui, je pense, n'ira pas très loin, mais Elle est importante pour l'image de la Russie en tant que faiseur de paix en Syrie. Et la Turquie s'est jointe à cette initiative. Et je pense qu'en échange, eh bien, la Russie se refuse à voter une résolution qui sanctionnerait la Turquie pour cette opération.
Merci Thomas Piret d'avoir été le plus pédagogue possible sur un dossier éminemment complexe. Tim, bonne journée à Kinshasa. Il nous reste 5 minutes. Ce sera la dernière question de la semaine. On va parler de cette crise entre la Chine et la Ligue américaine de basket. Et oui, c'est arrivé la semaine dernière à cause d'un tweet. Farid, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Lomé au Togo. Vous avez écouté cette information sur RFI et vous avez des questions à nous poser.
Oui, c'est ça.
On vous écoute.
D'abord, il y a quelques jours, un dirigeant de l'équipe des Houston Rockets a soutenu dans un tweet les manifestants de Hong Kong. Ce qui a entraîné la colère des dirigeants chinois qui ont décidé de suspendre la diffusion des matchs NBA en Chine.
Oui.
D'abord, ma première question, c'est celle-là. Quelles pourraient être les conséquences économiques de cette suspension pour la Ligue nord-américaine ?
Stéphane Lagarde, bonjour.
Bonjour.
Correspondant permanent de RFI à Pékin. Voilà comment un tweet provoque la colère de Pékin et du coup une polémique géopolitique entre la Chine et la Ligue américaine de basket. Il faut dire qu'en Chine, ce tweet a été perçu comme une sorte d'ingérence finalement ou un défi à l'intégrité territoriale du pays.
Oui, c'est ça. Alors, c'est pas les dirigeants chinois qui ont réagi ici, c'est ce qu'on appelle le sentiment du peuple chinois. C'est en tout cas comme ça que ça a été mis en avant sur les médias officiels, les médias de propagande, qui disent pas que ce sont les autorités, mais le peuple lui-même qui a réagi, les internautes notamment. Vous savez que l'Internet est censuré en Chine, là, ça n'a pas du tout été censuré. Pour le coup, les internautes se sont lâchés et ont critiqué énormément ce tweet qui a fait donc qui habite tout le monde en fureur ici. En tout cas, ça a créé une énorme colère pour défendre la mère patrie. Alors ce sont effectivement, Juan, d'énormes conséquences pour la Ligue de basket américaine. Le basket pèse très très lourd ici en Chine. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais pour vous donner une idée de l'engouement, il y a vraiment une passion pour le basket dans ce pays. Il suffit de regarder ce qui s'est passé hier, les tribunes de ce gymnase qui étaient pleines. Pleine à craquer pour ce match d'exhibition. Il y a deux matchs par an qui sont retransmis ici, deux matchs préparatoires. Hier, c'était les Lakers de Los Angeles contre les Nets de Brooklyn. Et donc, le stade était complètement plein. Et les billets se sont arrachés en quelques secondes sur le net. Et même, il y a eu des places au marché noir jusqu'à 6000 euros. Il y en a encore, d'ailleurs, sur le marché noir pour le prochain match donc à Shenzhen samedi. Donc, c'est une vraie passion. Il y a énormément de fans. 200 millions, je crois, sur les réseaux suivent la NBA ici en Chine. Et puis, une passion également pour les Houston Rockets. C'est parti de Houston, hein, cette affaire de ce tweet. Et les Houston Rockets, ben, vous savez, c'est l'équipe qui a accueilli Yao Ming, le géant, la figure nationale du basket ici, de 29, Yao Ming, qui a joué donc en 2002 chez les Houston Rockets, et qui donc, cette équipe, si les sponsors se retirent, dit-on, pourrait perdre jusqu'à 400 millions de dollars, donc avec cette affaire chinoise, sans retransmission évidemment, puisque la chaîne de la télévision centrale de Chine, la chaîne de sport, a dit qu'elle allait cesser les retransmissions de ces matchs préparatoires. Est-ce qu'elle va le faire pour le reste des matchs de la compétition aux États-Unis? On va voir. En tout cas, ça serait énorme, parce qu'effectivement, ben, ça gênerait les sponsors. Et on dit ici, en tout cas, ça c'est la Fox News, donc la chaîne américaine qui le dit, la NBA gagne, enfin la Chine aurait rapporté 4 milliards de dollars en 2018 à la NBA, donc c'est énorme le marché chinois ici.
Le basket...
Par exemple, encore un exemple, c'est le dernier chiffre, Tencent, qui est le média numérique, qui retransmet en streaming les matchs de la NBA, a signé son dernier contrat. Il est estimé, alors les chiffres ne sont pas diffusés comme ça, mais les experts disent qu'ils ont signé un contrat avec la NBA de 1,5 milliard de dollars cette année. Donc c'est énorme, vraiment l'engouement et l'argent que ça crée.
Le basket est incontestablement le sport le plus populaire en Chine, bien plus que le football. Et quand on aime le basket en Chine, eh bien on suit la NBA, donc le championnat de basket américain. Pour l'instant, vous avez bien fait de le rappeler, Stéphane Lagarde, ce sont les matchs d'exhibition, les matchs de pré-saison qui ne sont pas diffusés à la télévision chinoise. Pas question encore évidemment d'interdire la diffusion du championnat américain de basket. Début du championnat le 22 octobre, me dit à l'oreillette Arès Sirdag, le réalisateur de cette émission. Stéphane Lagarde, bonne journée à Pékin. Merci d'avoir été avec nous. Farid, merci de nous écouter à Lomé. On va marquer une pause, retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après, évidemment, pour la libre antenne 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.